RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui en Guinée, à Conakry, Gekedou et Massenta. Olivier Roger est allé à la rencontre de ceux qui affrontent jour après jour, depuis mars dernier, la terrible épidémie d'Ebola. Le virus réveille les peurs et charrie les fantasmes. Parole de Guinéen, grand reportage d'Olivier Roger. Voici son reportage.
C'est la première fois que nous entendons le problème d'Ebola.
Sekou Bofa Camara, quartier Kamayenne, à Conakry.
Vraiment, nous avons l'inquiétude de telle sorte qu'on n'arrive pas à se retrouver. Bon, partout où tu passes à l'heure là, tu verras que toutes les choses sont installées pour eau de javel, tout ça là. Chacun de nous a une bouteille de eau de javel. Chaque fois que nous sortons et nous arrivons, nous en lavons les mains avec eau de javel. Ça, les précautions sont toujours prises.
Elle est où, là, votre bouteille d'eau de Javel là?
Moi, je l'ai avec moi. Attends, je vais le faire sortir. J'ai une bouteille d'eau de Javel avec moi.
D'accord. Donc, c'est une bouteille d'eau minérale dans laquelle vous avez mis de l'eau de Javel.
L'eau de Javel, oui. Je l'ai avec moi.
Bon. À chaque fois que vous rentrez chez vous, à chaque fois que vous sortez, c'est eau de Javel?
Eau de Javel. Eau de Javel, parce que le problème du boulot que nous entendons, tout le monde a peur, presque tout le monde a peur. Alors là, même pour ce salut, tout le monde fait comme ça là. Bon,
c'est-à-dire on cogne les poings, les uns
contre les autres. On ne cogne même pas les poings, on tout arrête. On vous salue, après quoi vous vous séparez.
Vous ne serrez plus les mains?
On ne serre plus les mains parce qu'on a peur de la contamination.
Nous sommes Amdalaï 1, secteur 1. C'est la guette ça, Madame Kanté. Ebola pour nous, c'est une maladie qui tue. Donc, il faut s'en méfier. Nous désinfectons l'eau que nous buvons et l'eau avec laquelle on lave les mains, tout.
Vous avez acheté du chlore?
Oui.
Eau de Javel?
Oui.
Ouais. Vous mettez partout?
Oui.
Et si quelqu'un vient frapper à la porte, vous lui serrez la main?
Non. Même si on serre la main, pour ne pas qu'on dise qu'on a ignoré le gens, donc nous lavons les mains après.
Moi, c'est Camara Djena.
Et vous avez fait une sensibilisation Ebola, c'est ça?
Oh oui, on a fait l'Ebola, on nous a demandé qu'est-ce que l'Ebola, et puis les préventions, et tu peux être guéri. Donc l'Ebola, c'est une maladie d'origine brutale, dont la mortalité est très élevée et très contagieuse. Donc on doit l'éviter, évidemment.
Qui est-ce qui vous a expliqué tout ça?
C'est un professeur au lycée Matam.
Au lycée Matam, ils vous ont fait une sensibilisation sur Ebola?
Oh oui.
Qu'est-ce que vous avez reçu? Montrez-moi ce que vous avez reçu. C'est un papier du ministère?
Oui, oui, ça c'est le papier des textes, quoi. Sujet.
Sensibilisation stop Ebola dans la ville de Conakry.
Oui.
Ils vous ont distribué ça?
Non, c'est pour celle-là, c'est pour ma fille.
D'accord, c'est votre fille qui a reçu
ça. Oui, oui, oui. Et puis elle m'a expliqué qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter Ebola. C'est tout. Ça me fait peur, hein, à faire Ebola. Les gens qui disent que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Alors que pour moi, quand j'entends que les gens sont décédés partout, par là, quand même, ça me fait peur au cœur, quoi. C'est ça.
Je suis Elège Alassane Khoumeni Camara.
Et vous êtes donc l'imam de la grande mosquée de Boulbine?
Je suis le premier imam de la grande mosquée de Boulbine ici. Nous, ici, à la grande mosquée de Boulbine, tous ceux qui viennent prier, avant que tu rentres dans la mosquée, il faut que tu laves ta main. Si tu refuses de laver ta main, on ne te reçoit pas de la mosquée, parce que tu ne peux pas venir contaminer ceux qui sont dedans. Donc on met le chlore dans l'eau, tu laves ta main avec ça. S'il n'y a pas de chlore, on met le savon. Donc à chaque prière, les gens nous demandent, parce que jusqu'à présent où nous sommes comme ça, il y a des gens qui ne sont pas convaincus qu'il y a Ebola chez nous. Donc parce que...
Et qu'est-ce que vous leur dites alors?
On leur dit que c'est bel et bien que Ebola se trouve chez nous. Donc on est là à prier, à demander Dieu de nous épargner cette maladie. Tout le monde a peur maintenant.
Est-ce que les gens prient plus qu'avant?
Les gens viennent prier plus qu'avant.
En Guinée, on entend souvent les gens dire « Ah, c'est Inch'Allah, si Dieu le veut, je n'aurai pas la maladie. » Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Moi, je m'en remets à Dieu » Vous leur dites « Remettez-vous-en à Dieu, d'accord, mais pas uniquement. »
Mais ceux qui disent que la maladie, si Dieu veut, ça va t'attraper. Si Dieu ne veut pas, ça va pas t'attraper. Non. Lave d'abord ta main, comme les docteurs ont dit. Si la maladie veut maintenant t'attraper, cela va, tu vas dire « Ah, c'est Dieu, Dieu a déjà écrit mon nom là-bas. » Mais toi, tu ne sais pas si Dieu a écrit ton nom sur la liste des gens qui doivent attraper Ebola. Tu ne sais pas ça. Comment tu veux te laisser comme ça l'affaire? Tu te laisses faire, la maladie vient te prendre. Ça, c'est ton problème. Il faut prendre les mesures.
Je m'appelle Fatma Tassila. Le problème de Ebola là, les gens disent il y a Ebola ici, mais nous on ne connaît pas s'il y a Ebola ici. Hein.
Est-ce que vous faites plus attention qu'avant?
Ah, nous on vit comme on veut, hein. On vit toujours comme avant.
Vous ne vous lavez pas plus les mains?
Mm-hmm.
Vous n'utilisez pas l'eau de Javel?
Nous on n'utilise pas l'eau de Javel.
Parce que vos voisins là-bas un peu plus haut, ils ont tous de l'eau de Javel à la maison.
Hein. Non, je vous ai dit, nous on ne connaît pas s'il y a Ebola ici. Donc on ne fait pas attention. Le problème d'Ebola, là, c'est les gens qui disent. Donc nous on pense qu'il n'y a pas Ebola ici.
Vous n'avez pas peur?
Ah, on n'a pas peur. Si tu as Ebola, tu vas mourir. Si tu n'as pas Ebola, tu vas mourir. Donc nous, on n'a pas peur de la mort.
Dans tous les cas, on va mourir.
Ah, toi-même, tu connais ça, quand?
Mon nom c'est Kissi Kaba Keta, souffert à MSF à Guéguédo. L'affaire de maladie là, les gens pensent toujours que c'est pas vrai. Or que nous, consciencieusement, nous qui travaillons dans ce projet là, on connaît que l'affaire là, ça existe bel et bien. Mais avec tout ça là, même nous-mêmes, on est accusés que si on commence à faire les sensibilisations, on nous accuse à quitte là-bas, hein, parce qu'on vous donne de l'argent, les blancs vous donnent de l'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent pour nous tuer. Donc ça c'est vraiment... Ça fait honte, nous-mêmes.
Ça, vous l'avez vécu, ça. Vous avez été accusé, pris à partie par des villageois.
Bien sûr. Presque tous les travailleurs du projet. Tout le monde a été accusé. Parce que si tu commences à sensibiliser seulement, on dit quitte là-bas. Toi, tu ne connais rien. On vous a donné l'argent pour venir nous tuer. Nous, on peut faire ça. Hein? On a nos parents en ville. Tout le monde a des parents. On ne peut pas prendre l'argent pour tuer nos parents. C'est le maladie. On ne peut pas acheter le maladie. C'est Dieu qui donne. Donc, on va lutter ensemble pour finir l'affaire là. C'est ça.
Alors aujourd'hui, on va suivre Pascal, qui est en charge du suivi des contacts. Donc les contacts, c'est des personnes qui ont eu un membre de leur famille atteint par l'Ebola et qu'on surveille pendant 21 jours pour être sûr qu'ils ne développent pas de fièvre et pas de maladie. Donc on va sans doute prendre la température, poser quelques questions pour savoir si une personne de la famille a été malade.
Pascal, vous pouvez m'expliquer pour RFI en quoi consiste votre fonction?
Moi, ma fonction, c'est que je suis superviseur suivi des contacts. Et le contact, c'est une personne qui a été en collaboration, soit directe, voire même indirecte, avec une personne contaminante du virus Ebola. Donc, lorsque cela arrive sur une personne qui a le virus, on cherche d'abord à investiguer réellement et comment l'intéressé s'est pu contaminer. À partir de l'investigation, on récupère les gens qui ont été en contact. On cherche à récupérer ces personnes-là pour les enregistrer sur une fiche qu'on appelle fiche d'enregistrement, qu'on passe tous les matins à suivre ces gens. D'habitude, on prenait la température, mais pour des mesures réellement de sécurité, pour nous-mêmes le personnel, on nous dit maintenant de passer à chaque jour, contrôler chaque matin, faire l'interrogatoire, voir réellement quels sont les problèmes qui se révèlent dans cette famille jusqu'à 21 jours. C'est lorsque nous remarquons des anomalies, soit des signes, nous remontons l'information sur une personne. Cette personne est une personne contact, mais on remarque quelques signes parce que hier, soit il avait la fièvre et la fièvre ne fait qu'à persister. On remonte l'information et immédiatement, il y a l'équipe de l'alerte qui est là, il y a la coordination, il y a MSF, l'équipe de MSF qui est très dynamique, descend immédiatement sur le terrain pour récupérer l'intéressé pour son test.
Ebola, car le monde a appelé, mais qui est Nindo, nous devons y aller.
Quand nous venons, la première des choses dans un quartier, on se présente au chef. On va se présenter, c'est une équipe d'MSF. Nous sommes chargés pour la sensibilisation des parents. Le chef nous accueille. On demande maintenant qu'on veut aller faire le porte-à-porte. Il nous oriente dans les différentes familles. Et ça fait 6 mois de cela que nous sommes en train d'œuvrer dans cette activité. Maintenant, on n'est plus à la phase de l'information, nous sommes à la phase de la communication, c'est-à-dire la communication interactive.
Le produit que les gens là utilisent pour désinfecter l'endroit où la personne était malade d'Ebola, c'est ce même produit que nous utilisons maintenant là. Nous lavons les mains, c'est du chlore. Et là aussi, c'est au juste l'endroit où la personne était malade.
Ce qui fait aussi nos inquiétudes, reste les gens peuvent dire que quand ils vont quelque part pour la sensibilisation, quand il y a des réponses, après, la maladie est venue là-bas.
Je te remercie d'abord d'avance de nous poser cette question. C'est une très belle question. Par rapport à ça, au début, quand l'épidémie a éclenché ici, MSF est venu en premier lieu. MSF...
Est-ce qu'il y a des quartiers ici où vous avez été mal accueillis?
Au début de l'épidémie, on était vraiment très mal accueillis dans certains quartiers, mais à l'heure qu'il fait, vraiment, il y a eu un changement de mentalité. Les quartiers, l'accueil est un peu chaleureux maintenant là.
Alors, je suis Alexis Tunkara, donc je travaille avec MSF comme psychologue au projet urgence Ebola. L'un des rôles que nous jouons, c'est justement ça. Lorsque les malades sont guéris, et d'abord, ils sont raccompagnés au niveau communautaire par les HP, effectivement, pour expliquer cette partie que les gens, ils ont été malades d'Ebola. C'est vrai, au départ, ils étaient contagieux, mais maintenant, ils ne peuvent pas transmettre la maladie parce qu'ils sont guéris. Et donc, pour les rassurer, pour rassurer à la communauté, à la famille, donc ils sont raccompagnés par les HP qui les touchent, qui font tout avec eux. Là, ça donne déjà un certain espoir, une certaine confiance à la famille ou à la communauté pour pouvoir dire oui, c'est vrai, parce qu'eux-mêmes, ils les touchent, il y a tout ceci. Donc, ensuite, nous venons en appui au niveau communautaire pour voir quelques jours après, est-ce que les malades ont été réinsérés, ils ont été admis, ils ont été accueillis par leur famille ou par leur communauté pour voir vraiment leur réinsertion sociale et pour nous rassurer que le malade est bien traité au niveau communautaire, au niveau familial.
À 17h, le quartier était plein, tout le monde me regardait avec les yeux ouverts, la bouche ouverte, ébahie.
Nous l'appellerons Safi. Elle souhaite conserver l'anonymat. Elle a survécu à Ebola.
Dès que je me suis posé la question, mais c'est quoi le problème? J'ai demandé à la famille maintenant, j'ai dit, mais une chose m'est arrivée aujourd'hui. Je suis sortie, les amis ne m'ont pas salué. À ma rentrée, je dis curieusement, personne ne voulait faire avec moi. Les gens me regardaient comme si j'étais une survivante. Et c'est là-bas où la famille m'a rencontré. Au fait, ta mort était déjà annoncée dans le quartier. Parce que oui. Elle dit, quand tu es venue, tu ne t'es pas croisée avec des personnes qui quittaient dans la famille. Ils étaient venus pour te souhaiter tes condoléances. Elle dit, ah bon, oui. Elle dit, en plus de cela, la maladie dont vous souffrez, Ebola, elle dit, ça a fait que nous avons été stigmatisés totalement. Tu vois, notre puits, tout le monde venait puiser de l'eau. Maintenant, personne ne vient. Les gens, pas en jouant au foot, leur ballon tombe dans la cour, ils viennent ramasser. Maintenant, la famille leur dit de ne pas ramasser. Tu vois, ils disent, regarde de l'autre côté. Les gens ont fermé leurs fenêtres parce qu'ils ont dit que Ebola, c'est dans l'air. Donc, ils se disent qu'en ouvrant les fenêtres, vous pouvez leur contaminer.
Toujours aujourd'hui?
Ben, ça, c'était le début, le jour que je suis sortie. J'ai tellement pleuré de telle sorte que j'ai appelé les infirmières dessus. Il y avait une infirmière de Lucie. Je l'ai appelée, je lui ai dit, Lucie, est-ce qu'il y a une place pour moi au centre? Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, je vais me retourner là-bas parce que ici, si je reste, je vais devenir folle. Je ne me sens même pas comme si je suis chez moi. Je dis, les gens me regardent de façon comme si j'étais quelque chose qu'on doit éviter. Je dis, je ne peux pas supporter ça, ça me fait trop mal. Elle m'a consolée, elle me dit, dans Ebola, c'est comme ça. Tu es stigmatisée. Les gens ne savent pas que quand tu sors d'Ebola, tu n'es plus contaminante. Tu ne peux plus contaminer quelqu'un, tu es guéri, c'est fini.
Ebola, parole de Guinéen, un grand reportage de Olivier Roger, réalisation Marc Minatel. Olivier Roger, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors on l'a entendu, l'épidémie d'Ebola charrie son cortège de peur, d'angoisse et aussi de fantasmes. Peut-on vaincre le virus sans avoir auparavant vaincu ses peurs?
Clairement, la réponse est non. Et c'est pourquoi les autorités sanitaires ainsi que Médecins Sans Frontières déploient des moyens impressionnants pour faire de la sensibilisation. Alors, en amont du processus et en aval du processus médical, en amont, il faut sensibiliser les populations, aller de village en village, de porte en porte, pour expliquer la nature de ce mal, préconiser les moyens de prophylaxie, enseigner l'attitude à avoir lorsqu'un malade est détecté, mais il faut aussi expliquer ce que font les médecins dans les centres de traitement, car souvent les populations sont méfiantes, elles craignent que leurs parents malades ne soient martyrisés dans ces centres de traitement. Sûr. Clairement, il y a des peurs et les populations soupçonnent parfois, notamment en Guinée forestière, les médecins de propager la maladie. Donc il faut expliquer sans cesse, aller de porte en porte et vous le savez, ces soupçons parfois entraînent des drames, comme on l'a vu le 16 septembre dernier à Womé, où 8 personnes venues faire de la sensibilisation ont été tués par des villageois de Womé qui n'avaient pourtant pas vu un seul cas d'Ebola sur place. C'est vous dire à quel point les fantasmes sont lourds. Les autorités font donc un travail de pédagogie maison par maison sur des territoires importants, puisque la Guinée forestière c'est plus grand qu'une région française. Oui. Des territoires qui comptent des centaines, voire des milliers de villages et de localités. Et ce travail nécessite des moyens humains importants.
Est-ce que ça fonctionne seulement?
Quand on voit ce qui s'est passé à Womé, on peut en douter. Quand on voit aussi les villageois se boucher le nez lorsqu'une ambulance d'MSF passe sur la route qui va de Massinta à Guékédou, eh bien effectivement on peut avoir des doutes sur l'efficacité de cette pédagogie. Mais si on regarde de plus près la situation à Massinta et à Guékédou notamment, on s'aperçoit que sur les 6 derniers mois, les choses ont beaucoup avancé. La pédagogie, la sensibilisation a fonctionné. En avril dernier, les populations de Massinta avaient chassé les personnels de MSF, les accusant d'être responsables de la maladie. Et puis, alors que les gens continuaient à mourir dans les villages, eh bien les habitants sont retournés à Guékédou chercher les gens d'MSF, leur demandant de s'excusant et leur demandant de revenir travailler. La pédagogie commence à fonctionner, mais c'est un travail de longue haleine.
Les ONG comme MSF, les institutions sont mobilisées. Est-ce que les autorités guinéennes le sont tout autant?
Aujourd'hui, oui, dans une très large mesure, mais ce n'a pas toujours été le cas. On a perdu du temps en Guinée, notamment en juin dernier, lorsque les autorités avaient décrété que l'épidémie était terminée, surtout d'ailleurs par peur d'effrayer les investisseurs étrangers. On a perdu beaucoup de temps à l'époque, mais depuis, face à l'ampleur de la catastrophe, le président, les ministres, les autorités ont changé leur fusil d'épaule et se sont investis dans cette lutte pleinement, inlassablement. Le président, notamment, répète chaque jour qu'il faut faire attention et combattre cette épidémie. Le ministre de la Santé, Rémi Lama, les personnels de la coordination nationale, comme le docteur Sakoba Keita, tout le monde organise la lutte. Il faut mobiliser tous les segments de la société, les acteurs locaux, les ONG, qui sont autant de vecteurs de sensibilisation, notamment dans les régions reculées de la forêt. Ce que l'on peut regretter parfois, c'est que les élus locaux, on les voit pas beaucoup sur le terrain. Les députés, ceux qui, en 2012, se sont fait élire par des centaines de milliers de Guinéens en forêt, on les voit pas beaucoup présents sur le terrain. On peut aussi regretter que les moyens alloués aux préfets, aux gouverneurs soient encore insuffisants. Et on peut aussi regretter que les bailleurs de fonds, même s'ils sont de bonne volonté, même si la Banque mondiale et le FMI font de gros efforts, eh bien, on peut regretter que plus d'argent n'arrive pas pour soutenir ces autorités locales et ces autorités nationales en Guinée.
Je vous donne ma main, je la serre.
Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Roger. Grand reportage, à réécouter dans son intégralité sur rfi.fr. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier.